Bonjour à tous et bienvenue dans cette embellie réalisée par Juliette Gou, préparée par Arnaud Jamin et mise en musique par Juliette L'Orphelin. À la technique ce matin, Mathieu Bérény. Porter son regard cette semaine sur ce credo de l'architecte, designer et photographe turinois Carlo Molino, qui me semble vouloir dire un peu n'importe quoi et qui est donc pourvu d'un charme infini. Tout est permis tant que c'est fantastique. Une maxime à employer pour justifier tout acte suscitant l'incompréhension de votre prochain ou l'emprisonnement, bien que son efficacité reste à prouver. Imaginez un artisan classique du Moyen-Âge télétransporté dans un futur gouverné par la technologie et vous avez notre invité. L'un des plasticiens les plus connus de la scène internationale, le deuxième artiste contemporain après Jeff Koons à avoir été exposé au château de Versailles. Choisi pour représenter la France à la 57e Biennale de Venise en 2017, cet obsédé du processus de fabrication réalise des œuvres ludiques, graphiques et polymorphes. Sculptures, peintures, installations, spectacles, photos ou vidéos, il use d'une technicité ultra-moderne pour façonner un cosmos musical, mouvant et hypnotique. Cet homme, et c'est la première fois de ma vie que je dis ça de quelqu'un, scanne les êtres et les animaux en trois dimensions pour recréer leur volume, avec notamment des tôles d'acier pliées et découpées. Cette année, il prépare deux expositions solo à Paris et Séoul, un nouveau spectacle, deux inaugurations de sculptures dans l'espace public et d'autres choses que j'énoncerai de façon plus détaillée à la fin de l'émission.
L'embellie. Eva Bester sur France Inter.
Bonjour Xavier Veillant.
Bonjour.
Êtes-vous content d'avoir été mis au monde ?
Oui, je crois fondamentalement, comme je suis assez curieux, ça me rend content d'avoir été mis au monde. Et je pense que l'excitation, le désir font que rétrospectivement, ça justifie le fait d'être arrivé.
Rétrospectivement, c'est donc que ça n'a pas toujours été facile.
Disons que c'est une question que je me suis pas posée pendant longtemps et je crois que c'est en ayant un contact avec mon travail, en rencontrant mon travail à un moment, que je me suis rendu compte que c'était une possibilité de faire des choses très amusantes et très excitantes.
Vous parlez de rencontre pour rencontrer son travail, c'est-à-dire ?
En fait, souvent, on a une impression fausse. On parle de création, c'est toute chose qui existe, mais qui est somme toute assez petite, la latitude qu'on a est assez faible par rapport à toutes les choses qui nous entourent, qui sont des contextes sur lesquels on n'a pas de prise. Par exemple, d'avoir un certain âge, une année de naissance, d'avoir un milieu autour de soi, d'être un homme ou une femme, toutes ces choses sont finalement des conditionnements qui sont assez importants. Et finalement, on a peu de choix là-dedans, et la création, c'est plutôt une forme d'observation et de chasse, de cueillette, de choses qui sont déjà préexistantes.
C'est la définition que donne Stephen King de l'écriture. Il dit qu'il va déterrer des fossiles, mais qu'il n'invente rien.
Ah, c'est formidable.
Vous pensez ça aussi, Xavier Veillant ?
Mais je ne sais pas si ce sont des fossiles, mais ce sont des choses qui préexistent et que je mets en contact les unes avec les autres, par exemple. Donc il s'agit plutôt d'être une sorte d'assembleur, ou alors il y a une figure que j'aime bien, qui est celle du dandy, par exemple, qui est... Je ne me considère pas du tout comme un dandy, mais il y a une sorte de distance. L'artiste se doit de mettre les choses à une certaine distance et en même temps de s'immerger complètement, de s'investir complètement dans certaines positions qu'il prend. Et ça demande la bonne distance. C'est comme pour voir quelque chose, si vous regardez votre main de trop près, vous ne voyez rien. Si vous regardez quelque chose de trop loin, c'est pareil, il disparaît.
La frivolité et la profondeur mêlées. On va y revenir à cette distance et au regard. Mais d'abord, cette question obligatoire dans l'émission, comment se passe la cohabitation avec vous-même ?
C'est une question qui reste toujours une question. La question, c'est beaucoup lié à l'identité. Et moi, j'ai pas tellement de problèmes avec pour cohabiter avec moi-même parce que j'oublie tout. Donc je suis extrêmement laxiste avec moi-même et je survole et je suis comme dans une sorte de brume, mais plutôt agréable.
Ça a l'air très agréable. Ce qui vous donne envie de vous lever, Xavier Veillant, est aussi prosaïque qu'honnête, c'est l'envie de faire pipi. Ça ne vous arrive jamais pendant la nuit ?
Si, ça peut m'arriver, mais en fait, après avoir réfléchi à cette question, je me dis que ce qu'il y a de bien, c'est que la chose qui me fait me lever, ça peut être quelque chose de très physiologique, mais c'est aussi une chose nouvelle chaque jour. Donc ça, c'est la surprise, par exemple, de l'actualité. Moi, quand je me réveille, j'écoute la radio et je suis parfois un peu accablé par l'actualité. Mais il y a une chose qui est étonnante, c'est que c'est la nouveauté permanente et l'étonnement que le monde me procure tous les jours.
Encore une fois, une façon de voir les choses.
C'est-à-dire ?
C'est-à-dire qu'on pourrait être simplement accablé par l'actualité et vous arrivez à avoir un émerveillement, au lieu de vous concentrant sur les mauvaises nouvelles, vous concentrez sur la nouveauté.
C'est-à-dire qu'il y a toujours une question d'échelle, il y a des nouvelles qui frappent à une certaine taille et puis à une certaine distance, et puis d'autres qui nous concernent plus précisément, et à ce moment-là, on a des jugements très différents. Par exemple, vous mangez quelque chose de bon en apprenant une mauvaise nouvelle d'un conflit entre deux pays, par exemple. Et ces deux choses deviennent quasiment équivalentes, comme dans les plateaux de la balance, alors que les événements n'ont rien à voir entre eux. Donc le filtre par lequel on interprète les choses et le regard personnel qu'on a relativise en fait l'actualité, par exemple.
Relativité et échelle seront nos deux mots-clés dans l'émission de ce matin. Xavier Veillant, on a commencé par les choses sérieuses. Voici ce dont il sera question dans quelques instants. Les Sex Pistols, Snoop Dogg, Bob Marley, Eliane Radig, On Kawara, Louise Bunuel, une paire de dés, des vagues et un mur berlinois. Nous avons jusqu'à 11h pour tout évoquer.
Je suis en train de me casser.
Éloi, le titre Soleil mort dans l'embellie sur France Inter. Nous sommes avec l'artiste Xavier Veillan qui a répondu à la question « Qu'aimeriez-vous changer dans la société ?» C'est banal, réduire les inégalités, rendre la nature, l'art et la culture accessibles à tous. Xavier Veillant, la seule condition pour voir, par exemple, votre monstre à Tours, le lion à Bordeaux, les habitants à Lyon, Molière à Versailles, ou Richard Rogers et Renzo Piano à Paris, c'est de se trouver dans la ville où la statue a été installée. Est-ce que c'est dans l'optique de l'accessibilité à l'art que vous affectionnez autant les œuvres dans l'espace public ?
Ben, y a quelque chose qui se joue dans l'espace public, qui est déjà de savoir si cet espace est public ou privé. Parce que en fait, il y a des espaces partagés, mais qui sont régis par des règles ou des financements privés. Il y en a beaucoup, il y en a de plus en plus. Et puis, il y a des endroits qui sont réellement publics et qui sont des espaces où il n'y a pas la protection d'un musée concernant les œuvres d'art, par exemple, ou d'une galerie. Et à ce moment-là, se joue quelque chose qui est plus... réel dans le sens où on peut pas truquer, on peut pas faire quelque chose de trop expérimental non plus. On a très peu de temps pour avoir un impact visuel et on a beaucoup de temps parce que l'œuvre est pérenne et par exemple quelqu'un qui va habiter un quartier va passer tous les jours devant. Donc il y a une forme de responsabilité pour ne pas être lourd, pour être léger, en suspension, même dans une forme de superficialité que j'apprécie, qui est l'idée de la surface. Et en même temps, il faut être profond et trouver un ancrage dans le lieu. Et ça, c'est quelque chose de très spécifique à l'art dans l'espace public.
Superficialité et profondeur, comme le dandy qu'on évoquait tout à l'heure. Xavier Veillant, tout à l'heure, vous avez parlé de rencontres avec votre travail et vous parlez aussi parfois, à propos de vos œuvres, de rencontres visuelles.
Oui, tout ça, c'est une discussion, en fait. C'est-à-dire que ce qu'on est en train de faire ou ce que le travail de la plupart des gens aujourd'hui est une discussion qui fournit, qui produit des arguments, mais aussi de la richesse dans les meilleurs des cas.
Une discussion entre qui et qui ?
Entre, je sais pas, un client d'une boutique de téléphonie et la personne qui le reçoit, entre un professeur et un élève, en fait, beaucoup de choses sont basées sur cet échange qui parfois est matérialisé par quelque chose. Je vois la figure, par exemple, d'un cuisinier. Mais,
vous la voyez là à l'instant?
Ensuite. Oui, je pensais à Alain Passard, là, qui est devenu un copain, mais que j'ai commencé par admirer de loin, comme beaucoup de gens, comme les frères Bouroulec, par exemple, ou Sébastien Tellier, ou des gens qui font partie de mon univers, et qui sont des gens que j'ai eu la chance de connaître en personne, après les avoir connus au travers de leur production.
Xavier Veillant, votre engagement principal consiste à faire entrer vos idées dans le réel. Et j'adore cette réponse, car c'est sans doute de là que vient la plus grande frustration à échelle planétaire. C'est-à-dire que la plupart d'entre nous, on a des idées et ces idées vont rester dans notre tête. Et vous êtes vraiment l'illustration parfaite du passage de l'abstrait au concret, de l'imaginaire au réel. Vous avez toujours été littéralement un réalisateur.
Oui, moi j'aime bien le terme de constructeur. Parce qu'il y avait quelque chose, par exemple, je me rappelle quand j'étais enfant, dans les forêts de Normandie, au pied des hêtres, je construisais des petites cabanes avec des brindilles que je trouvais. Et c'était pas de l'architecture, mais en fait c'était rien d'autre que ça en même temps. Et il y a cette idée de faire tenir les choses debout qui me semble importante et qui semble quelque chose de très subsidiaire dans l'art, alors qu'en fait c'est fondamental. Et déjà construire, faire tenir, faire un pont, faire quelque chose, fabriquer, c'est déjà une entreprise qui me semble positive en elle-même.
Vous semblez être un inventeur. Est-ce qu'il y a beaucoup de ratés ? Est-ce que vous apprenez les techniques pour réaliser ce que vous avez dans la tête, tout d'abord comme un enfant rêveur ?
Oui, alors bon, l'enfant rêveur, il est quand même dans un contexte où on le presse beaucoup il y a des échéances, il y a la pression de l'argent, il y a les moyens de production qu'on va mettre, un peu comme un réalisateur qui doit faire un film. Et c'est un contexte assez corrosif. Mais en même temps, dans ce contexte, on peut tenter des choses, expérimenter, et surtout, je me suis rendu compte à un moment que je n'arrivais pas à faire une seule chose vraiment bien, mais que j'étais assez bon dans plusieurs domaines, et que surtout je pouvais relier des domaines et des qualités chez des gens que je rencontrais. Et ça, c'était une richesse incroyable. Et donc, en fait, on peut... c'est un petit peu comme de conduire un véhicule ou de diriger quelque chose à distance. On peut aussi, sans les instrumentaliser, mais mettre ensemble des qualités qu'on a identifiées chez des gens autour de soi, par exemple. Et les recherches technologiques... Moi, je suis nul en physique, mais ça m'intéresse beaucoup. Et je peux solliciter des qualités chez des gens qui voient très bien comment aller verticalement, comment approfondir, creuser une connaissance, mais qui vont pas savoir très bien quoi faire avec, comment la connecter à autre chose et construire un système.
Vous formez de bonnes équipes, en somme. Comment décidez-vous ? Par exemple, parfois vous avez des statues qui sont multifacettes, il y a d'autres statues qui sont lisses, comme du marbre, comme celle de Molière par exemple, ou même des statues en bois, comme le chien Okapi que j'affectionne particulièrement. Ça commence par quoi ? Des dessins ? Des notes ?
Ça commence très souvent par des dessins, mais parce que le dessin est une manière d'exprimer un projet de façon très légère. Ça implique un carnet et un stylo. Mais c'est un dessin de transmission, en fait. C'est-à-dire que ça permet de faire passer un projet, une idée en quelques traits. Et je suis pas très littéraire parce que, non pas que la littérature m'intéresse pas, mais je suis un peu coincé dans le déroulement chronologique d'un texte, par exemple, ou d'une musique. Et je trouve que dans un dessin, il y a une immédiateté, il y a un instant représenté. Et après ça, il faut déployer cet instant et essayer de le faire... Oui, rentrer dans le réel, comme vous disiez tout à l'heure, et de trouver une place à ce qui reste un concept, mais qui va devenir bientôt un objet.
Quand on regarde vos œuvres, Xavier Veillant, il y a quelque chose qui a un grand caractère ludique, presque merveilleux. Là, je pense à vos bestiaires ou je pense à vos véhicules. On s'imagine que vous vous amusez en le faisant, mais j'imagine qu'il y a aussi de la souffrance derrière.
Il n'y a pas beaucoup de souffrance.
Non.
Moi, je cherche à faire des choses qui sont agréables à faire, avec l'idée que si c'est fait dans le plaisir, ça a plutôt un meilleur goût à la fin, et je combats l'amertume, les choses...
Les passions tristes.
Oui, exactement. Donc je suis heureux, en fait, de faire... Il y a une forme d'émerveillement quand même. Je fais un métier où je peux faire apparaître des formes, et ces formes qui sont très souvent contestées parce qu'elles ont cette dimension formelle, ce qui est à peu près le pire avec la beauté qu'on puisse imaginer en art, pour beaucoup de gens, pour moi est un luxe qui provoque un grand plaisir.
Dans vos engagements, Xavier Veillant, il y a aussi le fait d'être attentif aux gens qui vous sont proches. Dans quelle mesure votre regard a-t-il évolué à force de les représenter en statue, de représenter tout ce qui vous entoure en statue ? J'imagine que vous ne regardez pas de la même façon.
Ben, c'est vrai que j'ai tendance à quand je, par exemple, quand je rencontre quelqu'un, je m'imagine comment il est en statue. Et il y a cette technique qui est très intéressante du scanner, du nuage de points dans l'espace, qui est très proche en fait de la technique de la photographie et son histoire. Vous savez, au début de la photographie, que vous devez poser pendant longtemps sans bouger. Là, c'est un petit peu la même évolution, mais avec la troisième dimension en plus. Et ça permet de créer des avatars, des personnages qui sont des fantômes, mais très vivants. Et des sortes d'images ou des images rémanentes de vraies personnes. Et moi, j'aime beaucoup l'idée de la présence de personnes dans une pièce, par exemple, qui sont... Vous entrez dans un magasin, et vous interagissez avec les gens qui sont autour de vous, mais vous n'exprimez rien, vous êtes juste présent à ce moment-là, et au même moment que d'autres personnes. Ça, c'est un peu comme certaines particules qui, dans la physique quantique, n'apparaissent que quand elles s'entrechoquent. J'aime beaucoup cette idée que, en fait, c'est un peu l'idée idéalisée par les mythes autour de l'amour, mais c'est qu'on existe que au travers de la rencontre de l'autre.
C'est très joli. J'allais vous parler de particules et de molécules en plus. Bon, eh bien, du coup, découvrons les œuvres d'art qui vous ont aidé à appréhender le monde. Anarchy in the UK des Sex Pistols sur l'unique album du groupe Nevermind the Bollocks que vous avez choisi, Xavier Veillant, pour l'émission. Pourquoi ce choix ? C'est cathartique ?
Oui, c'est un moment particulier où je me souviens très bien, c'était un copain qui avait acheté ce disque en vinyle et on était dans l'entrée de l'appartement de ses parents sur un petit électrophone et moi, j'écoutais d'une espèce de musique soi-disant sophistiquée qui était proche du jazz rock ou des choses comme ça. Mais j'avais 14 ans, 15 ans, et j'écoutais ce disque et en me disant c'est vraiment foireux, c'est pas bien. Et en fait, j'étais complètement emporté par l'énergie qui était une sorte de valeur absolue dans cette musique. C'est-à-dire que le problème, c'était pas de savoir si c'était bien ou si c'était pas bien, c'était que ça soit aussi énergétique, c'était vraiment l'invention de la pile nucléaire, quoi. C'était, pour moi, c'était une révolution. Et je pense que même encore aujourd'hui, j'ai encore des traces de cette idée que c'est pas la question de savoir si on va bien faire ou pas bien faire, mais c'est la question de savoir si on fait ou si on fait pas. Et moi, je suis plutôt du côté du faire.
Chers auditeurs, à l'âme immarcescible, désactivez votre traducteur intérieur quelques secondes. L'heure est à la lascivité et au gangsta rap de la côte ouest. Everywhere I go, I got niggas and bitches on my dick trying to take my shit now. I don't really know, but I try to keep my head to the skid. I slice my piece of hit. What y'all hating for? You better get out and get your own, nigga. Pick up the phone and holla at your folks. Young folks in the hood, mashing doghouse, fuck them other fools. D-O-double-G, kick back, blaze a sack and catch a motherfucking Big Mac attack. We blazing up the door. 2000, le morceau Issues du rappeur Snoop Dogg sur l'album The Last 1000. Le disque de l'indépendance, puisqu'il crée à ce moment son label Doggy Style Records. Vous avez choisi cet album, Xavier Veillant. Je crois que vous écoutez beaucoup de musique en travaillant.
Pas tellement en travaillant. En fait, on a des horaires à l'atelier qui sont de 10h à 18h et on déborde allègrement. Mais à partir de 18h, il est convenu que je peux mettre la musique que je veux au volume que je veux et je m'en prive pas. Mais dans la journée, on reste tranquille parce que la cohabitation nécessite un peu de calme.
Et Snoop Dogg alors ?
Ben Snoop, c'est le meilleur quoi. Il peut lire l'annuaire. C'est comme Notorious B.I.G. où il y en a très peu en fait qui ont cette qualité, cette indolence, cette manière de pas y toucher et ce talent incroyable. Et j'ai eu la chance de le voir plusieurs fois dans des concerts qui étaient en fait un peu foireux. Qui était quand même géniaux parce que lui, on a l'impression qu'il peut faire n'importe quoi, ça va quand même avoir cette espèce d'éclat qui est drôle en plus. C'est-à-dire que il n'y a pas de lourdeur et il n'y a que les basses qui sont lourdes en fait. Everywhere is war. It's a war. That until they're no longer first class and second class citizens of any nation. Until the color of a man's skin is of no more significance than the color of his eyes. Miss a war. 1976, Bob Marley, War, sur l'album Rastaman Vibration, hymne antiraciste et ode à la paix, inspiré par le discours du dernier roi éthiopien Haïlé Sélassié devant l'Assemblée Générale des Nations Unies en 63. Sélassié considéré par les Rastas comme le messie. Je vois que vos particules remuent, Xavier Veillant, à l'écoute de ce morceau. Bah, ça donne envie de jouer de la basse, quoi. Ça...
On y revient à la basse.
Ouais, bah ouais, la pulsion, la pulsation. Et puis, il y a ce geste qui est assez audacieux de lire un texte qui ne rime pas, qui est un discours, et de le rendre d'une musicalité totale. Et c'est un de mes morceaux de Bob Marley préférés. Mais il y en a beaucoup. Je suis un grand fan de Lee Scratch Perry aussi.
Dont vous avez fait une statue.
Oui.
Parmi plein de producteurs de musique et aussi d'architectes, puisque vous intéressez justement à ceux auxquels on ne fait pas attention.
Oui, ceux dont on connaît parfois peu l'image. Bon, Lee Scratch Perry, il a une image très forte, mais il existe aussi comme producteur et comme artiste aussi. Donc certains sont uniquement producteurs et là ils disparaissent un peu dans les studios jour et nuit et on ne sait pas très bien quel aspect ils ont.
Safari d'Eliane Radic, dont vous avez aussi fait la statue traversée de vibrations, Xavier Veillant, sur l'album Opus 17. Ce morceau, vous avez fait un spectacle basé sur son œuvre, Systema Occam, à partir de Occam 1, sa pièce pour harpe. Pouvez-vous décrire son travail aux auditeurs qui ne la connaissent pas ?
Ben, je pense qu'on peut dire que d'une manière générale, les musiques qu'on a écoutées jusqu'à maintenant étaient basées sur le rythme et la mélodie. Et le travail d'Eliane Radig est plutôt basé sur l'harmonie ou la fréquence. Et finalement, ça donne une impression qu'on découvre, un autre champ musical. C'est-à-dire que c'est pas quelque chose qui ne concerne qu'elle, c'est quelque chose une possibilité musicale qui est très étendue. Et il y a des gens comme Pierre Boulez ou John Cage, par exemple, qui ont réussi à développer des choses dans le domaine de la musique en ouvrant des portes qui sont des espaces beaucoup plus grands que ce qu'ils vont pouvoir explorer eux-mêmes. Et Eliane fait partie de ces gens-là. C'est vraiment quelqu'un de très important qui a en plus été préservé d'une certaine manière par une forme de machisme ambiant à l'époque qui faisait que elle était reléguée à des rôles d'assistante et finalement son travail n'en a été que plus pur et plus radical, et aujourd'hui elle est admirée par énormément de musiciens parce que elle a gardé cette ligne complètement intransigeante, mais très, c'est quelqu'un de très humain et de très ouvert et de très à l'écoute.
Elle a été aussi influencée par le bouddhisme tibétain et expérimente les modulations musicales qu'on pourrait transposer dans votre œuvre, finalement, visuellement. Xavier Veillant, vous êtes né dans une famille de musiciens. Vos toiles ont servi de fond visuel dans le clip Marcia Baila d'Erita Mitsuko. Vous avez collaboré sur vos créations avec Sébastien Tellier, Air, Zombie Zombie. À la Biennale de Venise, vous avez créé le studio Venezia qui plongeait le spectateur dans un studio d'enregistrement. N'avez-vous jamais eu la tentation de composer vous-même ?
Ben, j'ai trop de respect pour la musique, en fait. Je me suis rendu compte aussi des limites de la musique amateur. Il y a une forme d'excellence qui est presque nécessaire. Et quand je vois les accords que trouve Sébastien, les mélodies que développe R, les harmonies d'Eliane Radig, ça me donne pas envie de me mettre à faire de la musique, ça me donne envie d'écouter la leur.
Et puis vous mettez en scène des corps sur la terre, sur la glace, un peu partout.
L'embellie. Eva Bester sur France Inter. It's all.
front of a green light. Just look at his face. What a beautiful face.
Fruit d'Oliver Sim dans l'embellie sur France Inter, toujours en compagnie de Xavier Veillan, avec qui on va parler d'un artiste conceptuel japonais pour lequel je n'ai trouvé qu'une seule illustration sonore.
Oh yeah.
Listen to me sing about On Kawara, the great conceptual artist de Paparazzi and the Photogs, un groupe parodique de l'humoriste Matt Farley. Xavier Veillant, parlez-nous d'On Kawara et de ses date paintings qu'il a commencé en 66.
Mais c'était mon artiste vivant préféré quand il était vivant. Et maintenant, je pense qu'il est devenu mon artiste préféré tout court. J'ai la chance d'avoir deux petites pièces de lui, des cartes postales. Et c'est un travail qui est somme toute assez simple, qui est d'observer par le biais de l'observation du temps. Le temps, c'est pratiquement le sujet principal de l'art contemporain et de l'art en général. Et ça le devient d'autant plus que l'art subsiste au fil des années. Et On Kawara, il a fait par exemple cette pièce magnifique qui est composée de classeurs. Il y a deux classeurs, un qui est One Million Year Past et l'autre qui est One Million Year Future. Et dans One Million Year Past, il y a votre naissance, il y a ma naissance, il y a la naissance de toutes les personnes qui sont nées.
Virtuellement ?
C'est-à-dire que les dates, c'est une liste de dates qui est tapée à la machine. Donc c'est un travail de fou. Et c'est une manière, c'est un petit peu comme le tableau des éléments, par exemple, où si vous, ce qui est très beau, c'est que quand vous voyez ça, vous voyez tout. C'est une manière de représenter la totalité. Et il y a cette dimension absolue dans On Kawara qui est mélangée, parce que ça pourrait être très emphatique ou très religieux ou très, et là c'est simplement spirituel et très économique aussi dans les moyens mis en œuvre.
Par exemple, il y a des date paintings qui sont des monochromes de couleur foncée sur lesquels il peint juste la date du jour de la réalisation de la toile dans la langue du pays où l'artiste se trouve à ce moment-là, en blanc. Il y a une question que je me pose, y a-t-il une limite concrète entre l'art et la folie, sachant que dans ma bouche, la folie est un compliment. C'est-à-dire que parfois, des œuvres pourraient être dues à des désordres psychiques et inversement.
Moi, je crois pas trop à ça, parce que je cultive pas du tout la recherche du déséquilibre, mais plutôt celle de l'équilibre.
Et là, dans le contrôle absolu du temps, dans la dans le fait de minutieusement mettre chaque jour, chaque date qui passe de façon obsessionnelle.
Oui, mais alors ça, il y a des gens obsessionnels, il y en a tout le temps, partout, avec des choses qui sont pas de l'art. Et moi, j'aime bien la folie, par exemple, de Lee Scratch Perry, mais j'aime bien la normalité qui cache quelque chose de fantaisiste. De fantaisiste, oui. La fantaisie, c'est un très bon mot. Moi, j'aime beaucoup. Et fantaisie et superficialité, par exemple, même si le mot peut être mal compris par certains, c'est plutôt comme dans la chanson de Dao et de...
Comment s'appelle-t-il ? Oui, En Surface.
En Surface, voilà.
Dominique A.
Dominique A, merci. Qui est une très jolie chanson. Y a cette idée de ne pas y toucher, mais qui veut pas dire qu'on ne considère pas. On prend en compte.
Le chien andalou a été fait en 1928, presque par hasard. Dans ce moment-là, je voulais rentrer au groupe surréaliste et je ne connaissais personne. Je ne savais pas comment. Alors j'avais un livre de poèmes surréalistes qui s'appelait Le chien andalou. Dans ce moment-là, j'allais en Espagne et j'ai vu Dali, qui était très ami dans l'époque. Alors nous avons commencé à parler et un scénario est né de notre conversation, basé un peu sur mon livre. Après, je suis venu à Paris, je l'ai réalisé et je l'ai présenté aux Ursulines en 1929.
1950, Louise Bunuel au micro de Simone Dubreuil sur la RTF. Xavier Veillant, vous avez choisi son autobiographie parue en 82, Mon dernier soupir, et vous précisez, du point de vue biographique plutôt que cinématographique, et c'est un livre surprenant à chaque page. On peut parler aussi de fantaisie plutôt que parler de folie. Il renverse des seaux sur la tête des gens qu'il rencontre. Il essaye d'étrangler Gala, la compagne de Dali. Il a des cailloux dans sa poche à lancer sur le public d'un chien andalou si jamais le public n'aime pas. Enfin, c'est très rigolo et surprenant.
Oui, ben ça vient un peu du dadaïsme, hein, qui est un mouvement qui reste très important et qui est directement lié au punk, par exemple. Mais Bunuel a quelque chose d'assez merveilleux. Moi, je suis pas un fan forcément de son cinéma, c'est pour ça que je pointais plutôt l'autobiographie. Mais il y a des gens qui ont traversé des époques qui les rendent, et des lieux qui les rendent complètement incroyables, parce qu'ils ont été comme trempés dans des moments particuliers. Et Bunuel, il fait partie de ces gens-là. Et vraiment, c'est un livre malheureusement qu'on ne trouve pas, mais peut-être qu'on le trouve en occasion ou en ligne.
En bibliothèque.
Oui, en bibliothèque. Et c'est un très beau livre parce que il part du constat que vieillissant, il devient sourd et aveugle, je crois.
Sourd,
ouais. Et que il sent qu'il doit mettre sur le papier certaines choses s'il veut les conserver. Et c'est comme un effort ultime. Et juste avant de disparaître, et sa vie est complètement dingue, quoi. C'est une vie de météorite.
À 5h15 ce matin, premier coup de pioche sur le mur de Berlin. Des dizaines d'Allemands, Est et Ouest, sont montés sur le monument historique. La zone interdite est aux mains de la jeunesse allemande. Chacun leur tour, ils prennent la pioche, cassent un morceau du mur qu'ils gardent dans leur poche en souvenir. En théorie, les services de police de RDA devaient vérifier les papiers de cette foule. Très vite débordés, ils renoncent. Certains Allemands de l'Est, incrédules devant cette liberté accordée si brutalement, hésitent plusieurs minutes avant d'oser franchir la frontière. Et là, sur le pont de Bornholmer, 28 ans après, les deux côtés se retrouvent.
La journaliste Hélène Rizacher dans le JT de France 3 du 10 novembre 1989. Xavier Veillant, dans votre équipement existentiel, on trouve la chute du mur de Berlin, ville où vous avez étudié à l'Université des Arts dans l'atelier de Baselitz, je crois.
Oui, oui, oui. C'était, je crois, dans les années 80, après avoir fait une partie de mes études aux Arts Déco à Paris. Je suis parti avec une bourse là-bas et je suis resté 2 ans. Et j'habitais à Marianenstrasse, à Kreuzberg, qui donnait sur le mur. Et ce qui était étonnant, c'est qu'au bout de 15 jours, je trouvais ça normal. Et personne ne pensait à aucun moment que le mur pouvait disparaître et que l'équilibre qui avait été instauré après la Seconde Guerre mondiale allait évoluer vers cette liberté. Et quand ça a été le cas, quand on parlait de surprise et de nouveauté de l'actualité, là c'était quelque chose d'absolument incroyable. Pour moi, c'était aussi quelque chose de géographique, c'est-à-dire qu'on touchait à une ville non pas avec l'architecture, mais avec sa forme. C'est-à-dire, imaginez que demain, on n'est plus la Seine qui traverse Paris, par exemple, ou que, je sais pas, le 13e arrondissement soit l'endroit du 8e, ça créerait un trouble mental. Et moi, j'ai subi ce trouble, et j'ai vécu des moments très instructifs à Berlin, parce qu'il y avait aussi la Tchernobyl, qui a été une grande leçon d'humilité, parce que en France, on n'avait aucune information, comme on s'en rappelle, enfin certains les plus vieux s'en rappellent. Et voilà la surprise de l'évolution du monde, l'apparition de la post-vérité, des choses comme ça qui sont très étonnantes pour moi, parce qu'elles ont une certaine logique, mais elles dépassent l'art en audace et en conséquence, bien sûr, aussi.
Surfing is the only life, the only way for me now. Surf, surf. With pop pop dip 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 pop dip dip. I got up this morning, turned on my radio. I was checking out the surfing scene to see if I would go. And when the DJ tells me that the surfing is fine, that's when I know my baby and I will have a good time.
Surfing des Beach Boys. Pour illustrer, Xavier Veillant, votre réponse aux trois questions suivantes, c'est la même, c'est assez inédit dans l'émission. Les deux premières, c'est qu'aimeriez-vous accomplir au cours de votre vie et qu'avez-vous raté ? Et la réponse, c'est surfer une vague. Vous n'y êtes pas arrivé.
Bon, j'y suis arrivé très mal, quoi. Mais vraiment très mal.
Mais pensez-vous que le jeu en vaille la chandelle ? Si ça se trouve, un jour, vous y arriverez, puis ce sera moyen.
Je crois pas, parce qu'il y a vraiment quelque chose de très particulier qui fait que le surf surpasse les autres pratiques. Je parle pas de sport, mais de pratiques physiques. C'est cette impression de douceur et de puissance que donne le départ sur une vague, et après ça il faut gérer cette énergie. Et moi, je vois beaucoup le monde comme un échange d'énergie, donc pour moi c'est si on arrive à être dans ces connexions, on arrive à quelque chose de très satisfaisant. C'est un petit peu comme, par exemple, réduire les bruits de grincement. Je vais paraître complètement fou en disant ça, mais une des choses que je... Par exemple, les caddies qui ont des roues qui couinent, j'ai envie de me balader avec une bombe d'huile et de réduire ces bruits. Parce que, en fait, à chaque fois qu'il y a dans le TGV un truc qui brinque-balle, par exemple, et qui vous gêne, c'est aussi de l'énergie qui est perdue. C'est de l'énergie qui devrait être contenue dans l'objet s'il était bien vissé, bien homogène.
Xavier Veillant, dans votre œuvre, il y a beaucoup de mouvements, de dynamique, de cinétique. Il y a ces calèches avec des chevaux. Je pense à Furtivo 1, 2 et 3, qui sont des photos de mouvements de pattes d'un cheval en pleine action. L'idée que le monde soit en perpétuel mouvement est une idée consolatoire pour vous, puisque justement, vous pensez que par son mouvement, on peut avoir une petite influence dessus parce qu'il n'est pas statique.
Oui, ben, par exemple, si vous essayez de faire tourner un véhicule à l'arrêt, c'est plus compliqué que quand vous êtes en train de rouler. Donc la dynamique, c'est une sorte de seconde chance. C'est que le fait que, qu'on le veuille ou non, le monde soit dynamique, comme on le sait depuis maintenant plus de 150 ans, ça permet d'avoir un espoir d'emmener les choses qui semblent trop lourdes pour nous à un autre endroit, de faire bouger les choses et... de le faire avec une sorte de positivité, de modernité qui, s'il n'y avait pas le dynamisme, aurait déjà disparu.
Restons dans la contemplation de l'univers avec votre engagement de fin d'émission, Xavier Veillant. C'est de regarder le ciel, et là je pense à la couleur de votre bateau RAL 5015, qui est le nom du coloris, à la couleur du lion bleu ciel à Bordeaux, aussi au géant réalisé avec Alexis Bertrand qui regarde le ciel à Stockholm, et au requin miroir qui reflète le ciel et la terre en Suède. Vous le regardez beaucoup, le ciel, ou vous, si c'est un engagement, c'est que vous allez faire l'effort de plus le faire?
En fait, c'est en voyageant, il y a des villes où on regarde plus le ciel. Par exemple, bizarrement, à New York, où les perspectives sont assez bouchées. En fait, les perspectives ne sont pas bouchées, c'est pas vrai. Il y a des ouvertures latérales, mais les bâtiments sont quand même très hauts. Et finalement, je vois plus le ciel à New York qu'à Paris. Et je pense que quiconque aime Paris comme un provincial que je suis, aime traverser les ponts, par exemple, et avoir ce sentiment d'un paysage qui est quelque chose de très beau. Moi, j'aime beaucoup regarder les villes comme ce qu'elles ont été. Et Buñuel, lorsqu'il est arrivé à Los Angeles, était dans un désert qui était à peine conquis. Et la ville est avant tout, avant d'être une ville, est un paysage avec des vallonnements. J'aime bien beaucoup imaginer qu'est-ce que c'est que Paris ou Londres ou New York ou Amsterdam avant qu'il ne devienne une ville.
Merci beaucoup Xavier Veillon d'être venu dans cette émission.
C'est un plaisir.
Beaucoup d'ouvrages à venir cette année. La réalisation d'un rideau de scène pour le théâtre Kabuki Za à Tokyo. Deux expositions solo en galerie. Perrotin à Paris en juin accompagné d'une publication monographique. Et je le dis en semi-VF, 313 Art Project à Séoul en septembre. Fin 2023, vous inaugurerez aussi deux nouvelles œuvres pour l'espace public, respectivement à Mons en Belgique et à Amsterdam. Je rappelle que la dernière à l'avoir été est une sculpture de Molière, désormais installée de façon permanente à Versailles. À venir aussi un nouveau spectacle coproduit par le TNB de Rennes, Tout l'univers, en collaboration avec Alexis Bertrand. Et pour 2024, un film de réalité virtuelle en cours de réalisation. Chers auditeurs, toutes les références vous attendent sur le site de l'émission Tout comme nous sur les réseaux sociaux. J'espère que vous attirerez les égards aussi glorieusement qu'un creepy repenti. Rendez-vous dimanche prochain à 10h10.